Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans l'émission « Et si on en parlait ?». Aujourd'hui, le thème abordé dans l'émission sera la mémoire de l'esclavage et de la traite négrière avec mon invité. Bonjour Jean-Marc Hérault.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Et alors c'est un petit peu la règle dans l'émission. On rappelle qu'il y a une émission un peu exceptionnelle aujourd'hui puisque vous êtes le seul invité. On rappelle votre parcours d'élu, d'homme d'État. Vous avez été maire de Nantes, de Saint-Herblain puis de Nantes jusqu'en 2012, député de la Loire-Atlantique jusqu'en 2016, premier ministre, puis ministre des Affaires étrangères. Bref, c'est un des plus beaux CV de la République. Et ensuite, après avoir choisi vous-même de vous mettre en retrait de la vie politique active, vous avez décidé de poursuivre un engagement, des engagements, et notamment à travers un travail de mémoire de l'esclavage dont nous allons parler. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire cette émission aujourd'hui sans évoquer ce qui se passe à Verdun, ce qui s'est passé depuis plusieurs jours avec les déplacements du président de la République autour des commémorations de la guerre 14-18, le 11 novembre. Et donc, on aimerait déjà peut-être avoir votre réaction sur sur ce parcours qu'a entamé le président de la République et sur la manière finalement dont notre pays, 100 ans après, commémore celles et ceux qui sont tombés sur les champs de bataille un peu partout en Europe. Et puis aussi, évidemment, je pense que ça vous tient à cœur, toute la réconciliation franco-allemande qui est aussi au cœur de ces cérémonies.
Tout à fait, c'est les commémorations. D'abord, merci pour votre invitation. Je suis content d'être à Radio Orient. Ces commémorations, elles ont une utilité collective, en quelque sorte. Et ça permet de se souvenir, de rendre hommage, de rendre justice aussi aux victimes, aux sacrifices. Et 14-18, Première Guerre mondiale, c'est un sacrifice presque inimaginable, hein, et malheureusement qui s'est reproduit encore pire 20 ans après. Donc c'est aussi pour se souvenir, rendre hommage, mais aussi avoir les clés de compréhension de ce qui s'est passé pour, quand ces malheurs aussi terribles se produisent, éviter que ça recommence. Et c'est aussi rendre justice à la mémoire de tous. Et ce que je trouve, même si ça vient tardivement, c'est qu'enfin, officiellement, la République a rendu hommage à ce qu'on a appelé les tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire ces dizaines de milliers de combattants des Outre-mer qui sont aujourd'hui territoire national, mais aussi des anciennes colonies françaises. Hein, et pendant longtemps, ces soldats qui ont combattu côté des autres, combattants français, américains, anglais, 14-18, mais c'était vrai aussi en 1945, ils sont réintégrés dans la mémoire collective nationale. Et c'est indispensable que ça soit fait. Et puis pour ça, il y a des gens qui se sont battus, qui sont mobilisés. Je pense à une initiative qui a été prise par une adjointe de Bondy, Aïssa Tassek, oui, qui a fait un travail formidable et qui a pu permettre à ces anciens tirailleurs sénégalais, entre guillemets, hein, de recevoir la Légion d'honneur. C'est tardif, mais c'est la République qui enfin les réintègre dans notre histoire commune, dans notre histoire nationale. Et la mission qui est la mienne de mettre en place cette fondation pour la mémoire de l'esclavage, c'est aussi de faire la même chose, c'est-à-dire de ne pas oublier d'où nous venons, qui nous sommes, cette diversité française, elle est issue de cette histoire qui est à la fois l'histoire de la traite et de l'esclavage, qui commence au XVIe siècle, la traite transatlantique, mais qui va aussi se poursuivre dans l'océan Indien, et puis cette histoire qui se poursuivra avec la colonisation. Et donc c'est 4 siècles d'histoire, on va dire histoire mondiale de la France. Et donc si on veut que les nouvelles générations, les jeunes d'aujourd'hui, se sentent partie prenante de cette histoire commune que nous proclamons sans cesse autour des idées et des valeurs de la République, il faut qu'ils puissent s'y reconnaître dans cette histoire. Donc ce travail que nous faisons, ce n'est pas un travail uniquement de commémoration, c'est un travail de mémoire, c'est un travail de transmission, c'est un travail aussi de partage de ce que cette histoire nous apporte, à la fois, bien sûr, comme passé tragique, mais aussi comme capacité à construire quelque chose ensemble. Et on pourra décliner, si vous voulez bien, tous ces thèmes ensemble, mais je suis heureux qu'on puisse le faire ici à Radio Orient. C'est extrêmement important pour, je dirais, créer la confiance aussi de notre vie commune.
Alors évidemment, nous avons énormément de questions à vous poser parce que, et je le rappelle pour nos auditeurs, nous sommes avec Jean-Marc Ayrault et c'est le 25 mai dernier que le président de la République, Emmanuel Macron, vous a, je dirais, a confirmé.
Le 27 avril.
Le 27 avril, puis il a réitéré dans une déclaration assez, solennelle, un discours, des mots forts, qu'il a intitulé « Mémoire de l'esclavage, le temps des actes ». Donc effectivement, le 27 avril, il y avait eu cette très belle cérémonie du Panthéon pour célébrer Victor Schoeffler et la mémoire du décret de l'abolition de l'esclavage. Et puis ensuite, le 25 mai, il a fait une déclaration, plus centrée finalement sur la mission qu'il souhaitait vous confier. Et il a dit, le président de la République, l'esclavage comme du reste le colonialisme, s'est construit sur un système d'exploitation économique. Mais c'est aussi parce qu'il s'appuyait sur le racisme et les préjugés qu'il a pu perdurer. Et ça me donne envie de vous poser une première question. Est-ce que vous pensez que les Français, aujourd'hui, en 2018, ont conscience de l'ampleur de ce que fut cette traite négrière, ce commerce triangulaire ? Il y a des chercheurs aux États-Unis qui, sur à peu près 3 siècles qu'ont duré ces phénomènes, ont estimé que c'est près de 12 millions de captifs qui ont été prélevés rien qu'en Afrique et rien que sur ce commerce triangulaire. Évidemment, il y a d'autres phénomènes d'esclavage dans d'autres parties du monde, mais là, on est vraiment sur celui qui a concerné directement notre pays. Et est-ce que vous pensez, et finalement, est-ce que c'est pas une des raisons d'être de la Fondation, que les Français ont conscience de l'ampleur de ce phénomène ?
Bah, pas assez, mais il y a eu beaucoup de progrès de fait. Souvent, on a eu dans le passé tendance à résumer cette histoire à l'abolition de l'esclavage, 1848, décret de Victor Schoeffler, et puis pour solde de tout compte. Et c'est vrai qu'il y a eu la commémoration du centenaire de l'abolition en 1948, dans un lieu prestigieux de culture qui est la Sorbonne, où il y a eu 3 grands discours qui ont été prononcés à ce moment-là, un par Aimé Césaire, un autre par Léopold Sédar Senghor, et l'autre par... le président Gaston Monnerville, donc, qui a été président du Sénat, donc tous 3 originaires d'Afrique ou des Outre-mer. C'était le cas pour An Césaire et pour Monnerville. Et après ça, il ne s'est pas passé grand-chose. Il a fallu attendre 1998, le 150e anniversaire, où un mouvement associatif très, très fort, très dynamique, a organisé une marche pour exiger que cette histoire de l'esclavage soit intégrée dans la mémoire nationale. Et peu de temps après, alors c'était pas tout de suite après, mais c'est en 2001, Christiane Taubira, députée apparentée au groupe socialiste à l'époque, après l'élection de Lionel Jospin, oui, en 97, oui. Après la dissolution, Lionel Jospin était Premier ministre, Christiane Taubira dépose une proposition de loi pour que la France reconnaissent par la loi que la traite et l'esclavage étaient un crime contre l'humanité. Mais plus que ça, demande aussi que dans cette loi, qui va être votée à la quasi-unanimité de l'Assemblée nationale, après un débat très, très intéressant, très riche et novateur aussi, parce que c'était quand même une rupture, un tournant, que cette histoire soit enseignée dans les programmes scolaires. Donc il y a un début, et là c'est un vrai tournant, plus une journée de commémoration qui sera plus tard fixée, ça demande toujours un peu de temps, par le président Chirac, et le 10 mai. Donc c'est la cérémonie officielle de commémoration. Donc il y a quand même cette étape. Pour moi, je considère que la loi Taubira est un tournant. Mais l'idée qui est sous-jacente au projet de fondation, qui a été effectivement confirmée par le président Macron, mais qui avait été lancée par le président Hollande, qui avait confié à Lionel Zinzou une mission de préparatoire, préfiguration, c'est de franchir une nouvelle étape, hein, une étape beaucoup plus dynamique, plus forte, qui est de rappeler cette histoire commune, de la transmettre, faire des travaux de recherche, mais aussi de valoriser ce que nous avons en commun. Parce que nous n'avons pas que cette histoire du passé, nous avons aussi cette capacité à créer ensemble, et on le voit dans la culture, dans la musique, dans la peinture, dans la littérature, c'est aussi ce patrimoine commun qui est issu de cette histoire, même si c'était une histoire tragique et douloureuse. Et puis en même temps, je crois que c'est important pour comprendre d'où nous venons, pour comprendre quelle est l'origine de la diversité française. Parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur l'équipe de France de football, mais qui est à l'image de ce qu'est la France.
De son patrimoine culturel.
Vous avez toute la diversité française, des origines. Et comment ça s'explique ? Ben, ça s'explique, c'est pas seulement les phénomènes migratoires, Ça s'explique par l'histoire. C'est pour ça que j'ai parlé des racines africaines de la France. Et donc c'est ça notre histoire. Si on ne donne pas les clés, si on donne pas les, et on donne pas aussi, et on rend pas justice, si on ne réintègre pas dans la mémoire collective tout ce, pour ce passé, à ce moment-là, il va manquer quelque chose, des frustrations vont perdurer, des attentes seront déçues, et puis par ailleurs, des préjugés demeureront, des préjugés qui conduisent malheureusement souvent au racisme. Donc il faut combattre le racisme, pas seulement par un cours de morale, mais aussi par tout ce qu'on peut donner comme clé de compréhension pour dire bah, qu'au fond, nous avons une histoire commune et que nous devons être fiers de cette histoire commune.
Alors, vous l'aviez dit d'une autre manière, la France doit regarder son histoire en face.
Oui,
c'est un petit peu,
c'est un peu ça.
Le résumé.
Mais il ne faut pas que ça soit culpabilisateur.
Voilà.
Parce que, comme je l'ai dit dans l'explication de vote que j'avais prononcée en 2001 lors du vote de la loi proposée par Christiane Taubira, nous ne sommes pas, nous, comptables de ce qui a été fait avant nous, mais nous sommes comptables de ce qui va se passer après nous. Donc c'est ce qu'au fond, ce que nous avons à faire, c'est par la lucidité, par la connaissance, par le partage, construire un monde dans lequel chacun trouve place sa place, sans concurrence des mémoires, sans concurrence communautaire, mais avec une volonté de faire vivre des valeurs qui sont, à mes yeux, des valeurs pas seulement républicaines, mais des valeurs universelles.
Alors,
et c'est d'autant plus important qu'en ce moment, on entend des discours qui font peur.
Et qui mettent à mal ces valeurs universelles.
À la fois
que
en France, en Europe, mais également dans des pays comme les États-Unis où on pousse à l'affrontement avec des discours comme celui du président Trump qui font peur parce qu'ils poussent à l'affrontement. Nous ne cherchons pas la confrontation, nous cherchons la réconciliation, mais par la vérité, par la connaissance de l'histoire commune.
Alors, ce qui est étonnant quand on reprend un petit peu la profondeur de cette histoire, et notamment l'histoire des abolitions, parce qu'en réalité, la première abolition, il y a peu de gens le savent, parce qu'on parle souvent de 1848 et du décret de Victor Schoeffer, mais la première abolition, c'est le 4 février 1794, et c'est la Convention nationale issue de la Révolution française qui décrète la première abolition de l'esclavage, esclavage qui est ensuite rétabli par Napoléon.
Tout à fait.
Et du coup, ça m'amène à cette question, un petit peu, en étirant un petit peu le temps, en revenant 100 ou 150 ans plus tard, c'est que la France a été pionnière dans l'abolition, dans les abolitions. Mais c'est vrai, et vous avez rappelé ces discours d'Aimé Césaire, Gaston Monnerville, entre ce moment-là et 1998, il se passe quand même plusieurs décennies. Plusieurs décennies où, dans les DOM, où on a vécu dans sa chair cette histoire, on est un petit peu gêné d'en parler parce qu'on a l'impression de déranger la métropole. Et la métropole, elle est très indifférente pendant tout ce temps. Qu'est-ce qui... Alors, j'entends bien que l'action de Christiane Taubira comme parlementaire et la proposition de loi qu'elle a portée a été un moment de bascule. Mais qu'est-ce qui fait que c'est à ce moment-là que les choses se passent, c'est pas une ou deux décennies avant?
Il se passe, pour être juste, il faut dire qu'il y a quand même tout un mouvement associatif, militant, qui a défendu cette cause pendant longtemps. Et c'est à l'occasion du 150e anniversaire que j'ai dit tout à l'heure que cette marche a lieu à Paris et qu'elle elle montre au pays cette diversité, hein, mais aussi cette attente, cette exigence. Et cette exigence, c'est que cette histoire soit réintégrée dans la mémoire commune, dans la mémoire nationale. Et donc c'est le début de quelque chose. La loi Taubira, elle vient après ça. Et d'ailleurs, cette journée qui avait eu lieu... le 23 mai est devenu maintenant une journée nationale, une journée officielle. Il y a trois dates, en fait.
Oui, il y a plusieurs.
Le 10 mai, qui est la journée de commémoration officielle, donc, qui a été créée après la loi Taubira. Il y a le 27 avril, qui est l'anniversaire de l'abolition du décret Schoeffer, enfin de la deuxième abolition. Vous avez raison de rappeler la première. Et puis, le 23 mai, qui est la mémoire, je dirais, des victimes de l'esclavage. Donc, cette marche du 23 mai. Donc, j'ai été présent à la marche du 23 mai 2018. C'était très intéressant. C'est là qu'a été affirmé ce slogan que je trouve très bien, « Français n'est pas une couleur ». Et donc, qui est un message très fort. On intègre notre histoire dans la mémoire collective, dans la mémoire nationale, mais on le fait autour de notre patrimoine commun, qui sont les valeurs républicaines, mais pour les rendre vivantes et concrètes pour tout le monde. Mais si on ne passe pas par ces étapes-là, alors on n'a pas les clés, on n'a pas les moyens d'avancer, et le but, c'est d'avancer. Alors, vous avez rappelé, à juste titre, le 1794, c'est quand même la Révolution française qui est cohérente avec elle-même, puisque la Première République décide, alors c'était dans les bâtiments de la Convention, mais qui ont disparu aujourd'hui, dans le jardin des Tuileries. Et c'est là que alors le président Macron a donné un avis officiel favorable, que doit être installé le futur mémorial national qui aujourd'hui n'existe pas. Moi, j'ai une expérience à Nantes où depuis 30 ans, on travaille.
Il y a déjà
un mémorial à Nantes.
Un lieu
de mémoire. Il y a des salles dans le musée qui racontent cette histoire. Donc, d'autres villes ont fini par se débloquer sur cette question. Je pense à Bordeaux pour aussi raconter cette histoire, ce qui n'est pas qu'une histoire nantaise.
Alors, on y reviendra tout à l'heure.
On y reviendra.
Parce que...
Mais ce que je veux dire, c'est que la France doit absolument, par une création artistique, par un monument, par un lieu de mémoire, et pas seulement un musée, mais un lieu de mémoire, de recueillement et de rassemblement, marquer sa volonté et rappeler la souffrance aussi de ceux qui ont été les victimes de cette histoire. Donc il y a une revendication qui est très très forte, qui est portée par de nombreuses associations, notamment celles qui se rassemblent le 23 mai, et donc il y aura un mémorial qui sera au Jardin des Tuileries, là où il y a eu la première abolition. Et ces associations, dont une qui s'appelle CM98, fait un énorme travail, a fait une proposition que je trouve très très intéressante, qui pourrait être la base du contenu du projet de mémorial, c'est que soient affichés dans ce lieu les noms des affranchis. C'est leur travail. Ils ont fait tout un travail de recherche dans toutes les anciennes colonies, qui sont aujourd'hui des départements d'outre-mer, donc les Antilles, la Guyane et la Réunion, où on a les noms qui ont été donnés après le décret Schœlcher, qui a donc, parce que ces personnes n'étaient rien. C'était des marchandises. N'avaient pas de statut, n'avaient pas de nom. Et n'avaient pas le droit d'avoir des noms. Donc ne savaient pas d'où elles venaient. Donc, et là, il y a un nom qui est donné.
Elles n'avaient plus d'histoire. Elles avaient été arrachées.
C'était le but, c'était d'effacer.
Elles étaient déracinées. D'où elles venaient. Donc, et elles étaient rayées de l'histoire.
Donc c'est une histoire terrible, d'une certaine façon. Et il y a eu des résistances extraordinaires. Alors, des résistances pour se libérer contre l'esclavage, le marronnage, mais il y a aussi des résistances pour que soit préservée une culture. Et ça, c'est un combat alors, qui est quand même extrêmement difficile. Donc, c'est un déracinement terrible, ce qui s'est produit pendant plusieurs siècles. On n'imagine pas, vous avez parlé de 12 millions de personnes qui ont été transportées sur des bateaux dans des conditions épouvantables d'Afrique vers les colonies. Mais c'est pour l'Afrique, et n'oublions pas que c'est aussi une grande question qui concerne l'Afrique, que c'est une des causes des difficultés que l'Afrique a ensuite connues pour son propre développement. Parce que quand vous spoliez des êtres humains de façon massive,
jeunes.
Des hommes jeunes, des femmes, des familles, tout un continent, vous détruisez en quelque sorte la force,
sa capacité de développement.
Et de résilience. Et donc ça, c'est vrai qu'aussi dans notre démarche, c'est une démarche qui est française, mais qui est aussi européenne, parce que c'est toute l'Europe qui a contribué à cela, mais c'est une démarche aussi qui est tournée vers l'Afrique et vers les Caraïbes, mais aussi l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc il y a une dimension internationale dans notre démarche.
Il y a d'ailleurs des personnalités africaines qui ont été associées aux travaux de la Fondation, enfin au démarrage, puisque vous êtes encore dans l'étape, je dirais, de transition, de préfiguration. D'ailleurs, à propos de la création d'un musée supplémentaire, le président de Macron, lui, ne l'a pas souhaité. Il a dit que ce musée, il existait. Hein, c'est le Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage qui a ouvert ses portes en Guadeloupe en 2015.
Oui, c'est ça.
Et qu'il ne souhaitait pas qu'un lieu supplémentaire à ce stade-là soit créé. En revanche, effectivement, il a bien précisé dans ses propos, de manière extrêmement volontariste, qu'il souhaitait que la fondation soit logée à l'hôtel de la Marine, où l'abolition de l'esclavage fut décrétée le 27 avril 1848, et qu'elle soit dotée de moyens humains et financiers, et aussi scientifiques, pour mener des missions d'éducation, de culture, et de soutien à la recherche et des projets locaux sous votre présidence.
C'est ça.
Donc ça, c'est un petit peu la feuille de route qui a été dressée.
Et par le mémorial dont j'ai parlé il y a quelques instants, qui doit être aussi inscrit dans cette nouvelle étape de notre histoire. Oui, c'est alors bon, un musée... Ce que nous souhaitons, c'est que ça soit aussi l'occasion pour les musées d'histoire d'intégrer dans leur récit historique cette dimension de notre histoire. Alors, j'ai parlé de Nantes, puisque...
ça a été fait pour les manuels scolaires, finalement.
Absolument. Mais Nantes avait commencé dès ma première élection, en 1989. C'était un engagement de mon programme d'agir pour, sur cette histoire. Quelques années plus tard, lorsque le château des Ducs de Bretagne, sa réhabilitation a été terminée, nous avons décidé d'y créer un musée d'histoire de Nantes. Et dans ce musée d'histoire de Nantes, des salles entières sont consacrées à cette histoire, puis l'histoire de la colonisation. Alors, et donc, ce que nous souhaitons, par exemple, le musée Carnavalet de Paris, qui est en cours de rénovation, bah, c'est aussi une histoire nationale, donc une histoire parisienne. Nous souhaitons qu'il y ait des salles qui sont consacrées à cette histoire. Et le musée d'Aquitaine de Bordeaux l'a fait finalement aujourd'hui, et c'est une bonne chose.
Alors, si vous le voulez bien, nous reviendrons sur votre expérience nantaise, parce que c'est un petit peu là que tout a commencé pour vous, mais aussi quelque part pour la mémoire de l'esclavage. Il y a eu des... Nantes a été une ville pionnière, et donc on va s'interrompre quelques instants, mais nous reviendrons sur Nantes. Je crois que vous y avez quelques attaches.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, et si on en parlait ? Aujourd'hui, le thème de votre émission, c'est la mémoire de l'esclavage et de la traite négrière. Pour en parler, nous sommes avec Jean-Marc Ayrault, qui est aujourd'hui en charge d'une mission de préfiguration sur une fondation pour la mémoire de l'esclavage que lui a confié le président de la République. Et sans doute, si le président de la République vous a proposé cette mission et vous l'avez acceptée, c'est pas totalement un hasard. Parce que en préparant cette émission, je vais vous citer, Jean-Marc Ayrault, « Ce que j'ai réussi à Nantes, je veux le faire au plan national », avez-vous dit. Et pourquoi est-ce que vous avez dit ça ? Eh bien, vous avez dit ça parce que, quelque part, Nantes, dans l'histoire de France et en relation avec cette histoire de l'esclavage, c'était le principal port français d'armateurs qui affrétait des bateaux pour le commerce séranguière, donc pour la traite négrière. Il faut savoir que en environ un siècle de temps, c'est 1700 expéditions qui sont parties de Nantes, ce qui fait de Nantes la ville qui a, je dirais, affrété le plus de navires pour ce commerce. Et ensuite, mais bien loin derrière, on retrouve Bordeaux, Le Havre, Saint-Malo. Et donc, ça donne aussi quelque part aux Nantais que vous êtes, et au peuple de Nantes, une responsabilité un peu particulière que vous avez assumée, et vous l'avez rappelé, mais j'aimerais qu'on y revienne lorsque vous êtes devenu... premier magistrat de cette commune en 1989.
Oui, je veux bien vous donner quelques éclaircissements. C'était une question qui mobilisait un certain nombre de consciences, d'associations, d'universitaires, déjà à Nantes. Tout n'a pas commencé parce que j'ai été élu maire.
Bien sûr.
Mais j'ai donné un débouché concret à des aspirations qui existaient dans la société. Je ne dis pas qu'elles étaient majoritaires et partagées par tout le monde, mais elles existaient. Notamment, il y avait eu une initiative en 1985, à l'occasion du 400e anniversaire du Code Noir. Le Code Noir, c'était Colbert. Sous Louis XIV, grand ministre de l'économie. C'était à l'époque où on développe la colonisation.
Ça s'accélère.
Avec la traite, etc., et l'esclavage dans les colonies. Et le Code Noir, c'est un acte juridique qui définit ce que sont les esclaves, en quelque sorte.
En résumé, c'est... un code de bonne conduite minimaliste des propriétaires d'esclaves,
voilà,
pour ne pas trop maltraiter leurs marchandises.
C'est ça, voilà, exactement. Et donc c'est un texte dont un exemplaire est exposé dans une vitrine à Nantes. Il y a des explications qui sont données aux visiteurs parce que les gens ne savent pas ça. Exactement. Mais le Code Noir, c'était donc codifiait les droits des propriétaires. Vous avez tout à fait raison parce que dans ce texte, il est extrêmement écrit que les esclaves, les noirs, sont des meubles, qu'on peut acheter et vendre et qu'on a des droits sur eux. Et rien d'autre. Donc ce ne sont pas des humains. Et donc ça a permis aussi plus tard de justifier par le racisme l'esclavage. Alors donc ce code, c'est quand même une étape qui organise et qui justifie
une
monstruosité, ce qui va se passer.
Mais
et donc en 1985, c'est cet anniversaire que les associations des universités nantaises veulent... commémorer en certain sens, mais rappeler, et surtout organiser autour de cet anniversaire toute une série de colloques et de manifestations culturelles. Proposition est faite à la mairie de droite de l'époque, mais qui refuse. Le maire ayant peur que ce projet divise les Nantais et qu'au fond, on va ramener dans l'actualité des questions du passé, il vaut mieux tourner la page et ça pourrait nuire à l'image de Nantes, etc. Donc ce projet rejeté, abandonné. Bien entendu, moi comme d'autres, nous sommes sensibles à cette question et nous allons en tenir compte pour que dans le programme municipal, et c'est donc très clairement dit, que nous prendrons une initiative pour justement prendre cette histoire à bras-le-corps et l'assumer pleinement. Non pas en cherchant à diviser, mais au contraire.
Pointer du doigt, mais...
Voilà, et en fait, on va organiser une très grande exposition qui aura lieu au Château des Ducs de Bretagne avant qu'il devienne musée, qui va durer 2 ans, qui s'appelle « Les anneaux de la mémoire » et qui raconte au public nantais, mais beaucoup plus large parce que beaucoup de visiteurs viendront. Je me souviens même qu'un président de la République... en exercice du Bénin, M. Soglo avait demandé dans son programme de visite d'État à venir à Nantes pour voir cette exposition. Et donc, ça va ouvrir les yeux à plein de gens. Ça va permettre beaucoup de colloques, ça va permettre des manifestations culturelles, musicales notamment, et littéraires. Et en fait, au contraire, la parole se délie. Elle se délie chez tout le monde. Et personne ne se sent accusé, parce que même les descendants d'armateurs, même certains, nous offrent leurs archives. Donc c'est plutôt intéressant... Les religions nous ont accompagnés, nous ont aidés, et donc on était dans une démarche de vérité et de réconciliation. Et puis, on donne tout de suite une dimension internationale à cette démarche, en particulier en direction de l'Afrique. Sénégal, Nantes va se jumeler avec une ville du Sénégal, la ville de Rufisque, et puis on a aussi des relations très étroites maintenant avec le Bénin. Et Bénin, c'était un des pays d'où partaient des millions, où sont partis des millions, de captifs vers les Amériques.
C'est un gros comptoir.
Donc aujourd'hui, le Bénin, par exemple, qui a fait déjà un premier travail de mémoire sur cette histoire, parce qu'il y a eu aussi des complicités locales, des enrichissements de certains rois, le Bénin fait la vérité sur sa propre histoire et est très intéressé par une coopération avec la France. Alors elle existe au niveau municipal, en particulier avec Nantes, le port de Ouida en particulier, mais je pense qu'on peut aussi donner cette dimension internationale à la démarche qui est la nôtre. Vous avez rappelé 1700 départs de bateaux de Nantes, c'est énorme. Hein. Mais ce n'est pas qu'en France, puisque quand on regarde ce qui se passe en Europe à cette époque, l'Angleterre est
en pointe. Il y a Bristol,
Bristol, autant, et quant à Liverpool, c'est 3000 départs. Donc c'est énorme. Alors les Anglais, je dois dire, ont fait un gros travail aussi de mémoire, parce qu'il y a beaucoup de musées. Il y en a un en particulier à Liverpool, qui est assez remarquable. Donc nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser à cette histoire, mais... C'est encore dans certains pays plus ou moins laissé de côté. Ça bouge, c'est vrai aux Pays-Bas, c'est vrai au Danemark, mais il faudrait sans doute que l'ensemble de l'Europe s'intéresse plus à cette histoire, parce que c'est l'histoire de l'Europe. Le premier pays qui a commencé la traite, c'est le Portugal. Oui. Puis ensuite, le reste de l'Europe s'y met, et ça devient général, hein, et justifié, y compris dans des textes, je vous ai parlé du Code Noir, et ça va durer jusqu'à la fin de la traite, l'interdiction de la traite, puis l'abolition de l'esclavage, mais il faudra attendre 1848 en France, et un peu plus tard aux États-Unis, vous le savez, avec la guerre de sécession. Absolument. Donc c'est une histoire qui va très très loin dans le 19e siècle, mais qui va quand même se prolonger en partie par la colonisation.
Absolument.
Même quand on abolit l'esclavage en 1848, il y a quelque chose de terrible, c'est qu'on va indemniser les propriétaires d'esclaves, oui, qui demandent beaucoup d'argent. Et c'est la même chose en Angleterre. Et avec cet argent, ils vont développer en quelque sorte la colonisation, l'autre étape historique. Donc il faut inscrire le travail de mémoire que nous faisons, pas seulement sur la période de la traite et de l'esclavage, mais sur son prolongement colonial. Hein, et c'est pour ça que c'est très important de le faire, à la fois pour nos compatriotes qui sont issus de cette histoire, quelles que soient les époques, les générations, et puis aussi nos partenaires et nos amis, qu'ils soient en Afrique ou dans les Amériques, et bien entendu aussi aux Caraïbes. Je dis les Amériques parce qu'on pense que c'est surtout l'Amérique du Nord et les États-Unis qui sont concernés, mais en fait, il y a eu des millions de captifs qui sont partis non seulement au Brésil, oui, mais on le voit en ce moment d'ailleurs, ces questions reviennent dans l'actualité avec beaucoup de racisme au Brésil, et notamment vis-à-vis des
gens de couleur
d'Afrique. Mais c'est vrai en Mexique. C'est vrai en Colombie, qui vient d'inaugurer une grande exposition sur cette histoire, mais c'est vrai au Pérou, il y avait partout des esclaves. Et ça, c'est une tendance très longue, y compris dans ces pays, à occulter cette histoire. Et c'est maintenant que ces questions reviennent. Et donc, il y a une coopération à faire. Et cette coopération, elle ne doit pas seulement porter sur l'histoire, il faut qu'elle, sur la mémoire, mais aussi encourager les travaux de recherche. Je suis allé récemment à Washington visiter le musée de l'histoire africaine-américaine qui est extraordinaire. Mais j'ai aussi rencontré à Washington et à New York des chercheurs qui s'intéressent aussi à beaucoup à notre démarche. Donc il y a là quelque chose à construire. Et c'est vrai aussi avec l'Amérique latine et l'Amérique du Sud. Donc, et puis, en même temps, quand on regarde ce que cette histoire a produit, elle a produit aussi des créations culturelles absolument incroyables que Edouard Glissant avait appelé la créolisation. Quand vous regardez la musique rap, quand vous regardez le oui. jazz, quand vous regardez... Enfin, tout ça, c'est lié, cette histoire.
Une autre manière de le dire, c'est le métissage.
Oui,
c'est-à-dire la manière dont la rencontre de la culture occidentale, même si elle s'est imposée par la force, notamment via la colonisation, et vous l'avez rappelé, et c'est tout à fait juste de le dire comme une continuité de l'histoire de l'esclavage.
Absolument.
Après, on a poursuivi, à travers la colonisation, le maintien d'un système d'indigénat
bien sûr,
où il y avait le colon d'un côté et puis les autochtones.
Bien entendu, le statut de l'indigénat donc, a duré jusque très tard, dans les années 60, jusqu'à la fin de la colonisation. Absolument. Donc ce qui montre bien qu'il y avait encore, on mettait pas sur le même plan les habitants de ces pays que les citoyens français.
Bien qu'on était dans
donc ça laisse des traces. On voit la situation, l'histoire de l'Algérie, par exemple, où c'est une histoire douloureuse, où il faudra là aussi, j'espère, faire un travail de réconciliation, parce qu'il est indispensable à une construction commune. Mais puisque vous parlez d'héritage commun, puisque nous sommes à la fin des commémorations du centenaire de 14-18, je rappellerai que le jazz est arrivé en Europe avec les soldats noirs américains de 1917. Et dans le cadre du centenaire, il y a énormément d'événements qui ont eu lieu dans toute la France et qui ont été labellisés par le comité des centenaires. Il y en a un qui s'est produit à Nantes le 12 février dernier. C'était l'anniversaire du centième anniversaire du premier concert de jazz qui a lieu en Europe. Et il a lieu à Nantes. Le maire de l'époque, pour remercier les soldats américains, a invité les joueurs de jazz, qui étaient essentiellement des noirs américains, à venir jouer dans le théâtre de la ville, le théâtre Gralin, le théâtre du XVIIIe siècle, un concert de jazz, mais qui a époustouflé le public, qui ont découvert une musique, le ragtime, qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et ça a été le début de toute une tournée dans toute l'Europe. Et le jazz a été importé en France grâce aux soldats noirs américains. Et ces soldats noirs américains, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils se sont sentis appréciés par le public français, beaucoup plus que c'était le cas aux États-Unis, où c'était relégué sur le côté, etc. Et notamment, je vous raconte, je ne veux pas être trop long, mais une anecdote qui est très révélatrice, c'est que les noirs américains qui faisaient partie de l'armée américaine arrivés en France n'avaient pas le droit de porter une arme. Le général Perkins interdisait aux soldats noirs américains de porter les armes. Et ce sont les Français qui ont interrogé les Américains en disant « mais on a besoin de toutes les forces, il faut qu'ils puissent combattre ». Et les Américains ont dit « vous voulez absolument qu'ils combattent ?» Ben, ils combattront, mais sous commandement français. Vous en prenez la responsabilité. Ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que dans ces joueurs de jazz, ils ont aussi combattu. Donc c'est aussi important qu'au moment des commémorations, qu'on rappelle tout ça. Et très récemment, j'ai discuté avec des responsables du musée de Washington qui m'ont dit que lorsque ces Noirs américains qui s'étaient sentis plus respectés et reconnus en France que dans leur pays, ils sont revenus pour certains d'entre eux en États-Unis avec des revendications et une demande de reconnaissance, notamment d'avoir été des combattants.
Ça le mouvement civique.
Oui, mais attendez, ils ont été mal accueillis quand ils sont revenus parce que justement, on leur a reproché de revendiquer. Donc certains ont été extrêmement maltraités, dont même certains ont été éliminés. Et donc, mais ce qu'on m'a dit, c'est que c'était un début de prise de conscience des droits civiques, combat qui sera mené beaucoup plus tard, parce qu'il faut quand même rappeler qu'aux États-Unis, il faut attendre 1963 pour l'égalité des droits, entre blanc et noir. C'est quand même terrible comme histoire. Mais c'est intéressant de voir que nous avons là quelque chose en commun, ce qui fait que la France, dans les années 20, va être perçue par les artistes américains, les joueurs de jazz, mais aussi les peintres, les écrivains, comme un lieu où on peut s'exprimer. Et Paris va être longtemps, je dirais, la capitale, en quelque sorte, des artistes noirs, avec le congrès des écrivains noirs, avec toute une série de rencontres qui vont avoir lieu. Donc la France peut aussi revendiquer cette histoire. Car cette histoire, elle n'est pas que, je dirais, tragique. La France a été à la fois capable d'instaurer l'esclavage, mais aussi de l'abolir et de construire autre chose. Et donc il faut s'appuyer sur ça, pour qu'on puisse montrer qu'il y a un chemin possible.
Il faut s'appuyer finalement sur ces basculements de l'histoire.
Exactement.
Et vous avez rappelé tout ce qui s'était passé à Nantes. Il faut rappeler qu'entre 1815 et 1830, il y a eu plusieurs maires à Nantes et ils étaient tous négriers. Donc on voit bien que 150 ans plus tard, dans les années 80, Nantes prend un petit peu avec la société civile la main sur ce combat. Et donc, on voit bien, c'est une ruse un peu aussi de l'histoire,
mais c'est extrêmement
intéressant de voir ce basculement total.
Tout à fait, mais en même temps, il y a toujours des contradictions. Les révolutionnaires de 1789, certains sont battus pour l'abolition. Il y a eu des grandes figures qui sont d'ailleurs au Panthéon.
L'abbé Grégoire.
On sait qu'il y a eu des paroles extraordinaires contre l'esclavage. L'abbé Grégoire, ces grandes figures. Plus tard,
Condorcet,
d'autres. Oui, c'est ça.
A écrit un ouvrage pour dénoncer
l'esclavage. Oui. Donc ça, c'est très intéressant. Mais il y a eu aussi des révolutionnaires qui étaient en contradiction avec eux-mêmes, parce que proclamation des droits de l'homme, etc. Et c'était la même chose aux États-Unis. Ces grandes figures comme Thomas Jefferson, ou le premier président des États-Unis, George Washington, était propriétaire d'esclaves. Lorsque je suis allé aux États-Unis très récemment, je suis allé à Mount Vernon, qui était la propriété de George Washington. Bon, maintenant, il y a un musée qui raconte cette histoire. Pendant longtemps, c'était occulté que George Washington était propriétaire d'esclaves, mais c'est très bien expliqué. Et dans le musée de Washington, ce très, très grand musée que Barack Obama a inauguré avant son départ, il y a cette phrase qui est dans ces salles qui sont consacrées à Thomas Jefferson, qui était un grand intellectuel, qui s'était inspiré de Jean-Jacques Rousseau, qui connaissait très bien notre culture, mais qui avait aussi des esclaves. Monticello, dans sa propriété, a une phrase énorme en grandes lettres qui était le paradoxe, c'est-à-dire à la fois les valeurs proclamées puis en même temps la pratique. Il a fallu prendre conscience très lentement que ce n'était pas possible de concilier à la fois les proclamations sur les valeurs universelles des droits de l'homme et puis de pratiquer l'esclavage.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment que finalement, après avoir été un petit peu occulté, par des voies parfois inattendues, et notamment, je pense, dans la dernière période, par le biais du cinéma, de la culture, d'abord par la littérature, la case de l'oncle Tom, autant en emporte le vent, autant de Racine, qui ensuite a été est devenue une série télévisée qui a été, je crois, pour le public français, une vraie découverte lors de la première diffusion, et puis des films récemment, 12 Years as a Slave, donc l'histoire de cet Américain affranchi, citoyen américain, qui s'est retrouvé dans le Sud, parce que attrapé
par des trafiquants,
et qui a...
Ça correspond à une vraie vérité historique, ça s'est produit, c'est-à-dire...
Et qui sont peut-être encore plus forts pour les contemporains que nous sommes, de comprendre ce qu'était le système esclavagiste.
Oui, et puis c'est un système qui, après l'abolition... que ce soit dans les colonies françaises, il y a eu ce qu'on a appelé l'engagisme. Vous savez, il n'y avait plus d'esclaves, mais on a fait venir des travailleurs sous contrat. L'engagisme, qui était très mal payé, voire même exploité, et qui ont, d'une certaine façon, prolongé cette histoire. On le voit dans les habitants des Antilles et de la Réunion, principalement d'origine indienne ou chinoise. Mais ce que c'est très intéressant, c'est que là, je vais aller à la Réunion à la fin de l'année pour les commémorations. Et la Réunion fait un énorme travail aussi sur cette histoire et qui est un peu différente parce que c'est l'océan Indien de ce qu'ont vécu les Caraïbes. Mais c'est la même histoire, d'une certaine façon. Et la Réunion veut aussi, tout en faisant la vérité historique sur tous les aspects de l'esclavage et de la colonisation, veut aussi se présenter comme un modèle de vivre ensemble et de réconciliation avec des gens d'origine diverse, de toutes ces communautés d'origine. Et ça, je crois que c'est un message aussi très positif qu'il faut effectivement soutenir et encourager.
Alors, peut-être pour Jean-Marc Ayrault, terminer notre entretien, on a senti que vous aviez envie de donner une vocation internationale à cette fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et au fond, est-ce que, à travers cette fondation, c'est aussi une manière pour la France, dans des pays européens qui sont peut-être pas dans le même degré, probablement moins aux États-Unis où il y a des moyens considérables qui ont été dédiés à travers des recherches et à travers beaucoup de travaux universitaires, mais est-ce que vous avez envie justement que la fondation serve un petit peu de carrefour entre tous les pays qui auraient envie de partager cette mémoire?
Tout à fait. D'ailleurs, nous prévoyons d'organiser, alors ça sera sous l'angle plutôt patrimonial, patrimoniale, alors à la fois les œuvres ou les restes de patrimoine qui racontent cette histoire, et puis aussi le patrimoine immatériel. Nous allons organiser, et en partenariat avec le musée d'Orsay l'année prochaine, un grand colloque international. Donc ce sera le début, parce que l'idée, c'est aussi de développer la recherche. La fondation va être dotée d'un conseil scientifique, et je souhaite que ce conseil scientifique soit le plus pluraliste possible, et notamment qu'il ait aussi une dimension internationale. Et là, on a énormément de choses à faire, et la recherche en France existe. Il y a un laboratoire du CNRS, le CIRESC, qui fait un travail extraordinaire, mais on peut développer encore. Le comité pour la mémoire de l'esclavage, CNMHE, attribue chaque année un prix de thèse, et ce prix de thèse qui a été accordé cette année, il a été à un chercheur franco-néerlandais, donc bilingue, qui a fait des recherches sur le commerce triangulaire, enfin le commerce triangulaire, la traite et l'esclavage dans l'océan Indien. Et on s'est aperçu que la France et les Pays-Bas, non seulement contribuaient au commerce triangulaire vers l'Afrique, mais aussi l'Afrique atlantique, la traite atlantique, mais aussi dans l'océan Indien.
Aussi de l'autre
côté. Ça, c'était tout un aspect qui avait tendance à être oublié. Donc, on va peu à peu découvrir énormément de choses qui sont méconnues. Et puis, l'idée, c'est aussi de montrer les traces de cette histoire. Et les traces de cette histoire, on va les trouver dans les Outre-mer, mais on va les trouver aussi dans l'Hexagone, à travers des exemples très intéressants, comme dans l'Est de la France, il y a plusieurs villages, dont c'est le cas de la commune de Champagnet, qui en 1789, moment de la Révolution française, où les Français étaient appelés à remplir des cahiers de doléances, dans le cahier de doléances de Champagnet, comme dans d'autres communes de l'Est de la France, on a demandé l'abolition de l'esclavage. C'est quand même extraordinaire.
Oui.
Donc c'est bien de raconter cette histoire,
qui est
l'histoire aussi d'une lucidité, d'une aspiration à la liberté. Ça veut dire que tout le monde, même aux pires époques du commerce triangulaire et de l'esclavage, ne se sont pas résignés à l'esclavage d'autres êtres humains.
Autrement dit, l'esclavage n'était pas considéré comme une fatalité, parce que c'était d'abord un choix économique et politique. Et je voudrais, Jean-Marc Ayrault, vous remercier. Je crois qu'on a aussi peut-être ici une pensée, parce que vous avez parlé d'elle tout à l'heure, et je sais qu'elle est très appréciée ici à Radio Orient, je pense que vous l'appréciez aussi, c'est à quel point Christiane Taubira a eu un rôle à jouer dans cette histoire française de la mémoire de l'esclavage. Je crois qu'on peut ici la remercier et la saluer son engagement. D'ailleurs, peut-être qu'elle continuera sans doute à travers des collègues ou des actions de la Fondation à être actrice de cette
Absolument.
Histoire.
Prochainement, nous allons tenir des ateliers de la Fondation. Donc, ce sera une étape importante où des responsables associatifs, des chercheurs, mais aussi des gens de la culture vont venir réfléchir à ce que pourrait devenir et faire la Fondation dans les années à venir. Et j'ai invité Christiane Taubira à venir nous adresser un message en conclusion de nos travaux. Donc vous voyez, on est en lien très étroit et des liens à la fois d'estime, mais surtout d'amitié.
Ça n'est pas pour nous surprendre. Et on est très heureux de vous avoir reçu aujourd'hui à Radio Orient. Et encore une fois, nous vous remercions, Jean-Marc Ayrault. Je pense que les auditeurs auront appris énormément de choses, à la fois sur cette page de notre histoire, mais aussi sur l'action que vous êtes en train de mener et que vous allez continuer à mener. Et d'ailleurs, je l'espère, nous aurons l'occasion de vous réinviter pour, d'ici quelques temps, faire un point sur la mise en place de cette fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui est en cours de préfiguration, mais qui bientôt va déployer toute son énergie et sa passion. Et c'est aussi celle qui vous anime. Et on l'a bien entendu à travers vos propos.
Merci Alexis Bachelet, merci à Radio Orient pour votre invitation.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.